Je suis en compagnie de Grégory Delaplace. Merci beaucoup de me recevoir au Collège de France. Nous parlons de votre nouveau livre qui s'appelle « Les intelligences particulières, enquête sur les maisons hantées » qui sort aux éditions Vue de l'Esprit, une nouvelle maison d'édition qui déjà fait sens, qui est dans l'obédience de Zone Sensible, un des grands éditeurs belges. Grégory Delaplace, votre parcours d'abord a commencé par des recherches ethnographiques dans les montagnes de Mongolie au début des années 2000. Vous vous êtes intéressé aux différentes façons dont les morts se manifestent auprès des vivants.
Mais oui, tout à fait. Mon premier séjour en Mongolie pour faire de l'ethnographie, c'était même en 99. Et c'est là que je rencontre ces pasteurs nomades du Nord-Ouest où je vais faire mes enquêtes. Et ces enquêtes, au départ, elles étaient censées porter sur les rituels funéraires. Au fur et à mesure que je me suis rendu compte qu'une enquête sur les rituels funéraires, ça impliquait que quelqu'un meure autour de moi, j'ai décidé de réorienter mes recherches pour plutôt étudier la façon dont les morts se manifestent dans le quotidien des pasteurs nomades, justement, de ces pasteurs nomades des montagnes. Et ça m'a conduit très naturellement et très vite à m'intéresser aux rencontres avec les fantômes, qui était une des manières principales dont les morts se manifestaient au quotidien. Donc j'ai commencé, en effet, à recueillir des récits de rencontres avec toutes sortes d'entités invisibles, des morts, donc des revenants, quelquefois, des morts bien identifiés comme morts, mais la plupart du temps, des êtres un petit peu plus... un petit peu plus vague, ou en tout cas dont on s'embarrasse pas trop des êtres dont on cherche pas trop à connaître la nature exacte en fait, et qu'on cherche surtout en Mongolie à éviter pour ne pas subir les dommages qui résulteraient du contact direct avec eux, quoi. Et donc voilà, en recueillant ces histoires, je me suis intéressé à cette matière-là. Les rencontres avec les fantômes qui m'a paru assez fascinante et en fait un petit peu sous-estimée en anthropologie.
Alors avec ce nouveau livre, Les intelligences particulières, enquête sur les maisons hantées, vous continuez votre exploration d'une anthropologie des apparitions. C'est comme ça que vous qualifiez vos recherches en fait, une anthropologie des apparitions.
Tout à fait, c'est comme ça qu'elle a été qualifiée en fait par mes prédécesseurs, notamment par Elisabeth Clavry qui en fait le sous-titre de son livre sur les apparitions mariales. Le sous-titre de son livre, je crois, c'est simplement une anthropologie des apparitions. Et c'est vraiment dans cette continuité-là que je voulais me situer. C'est un travail que je trouve très convaincant, justement, dans la façon dont la Vierge n'est pas la Vierge Marie et ses apparitions est envisagée à travers toutes les étapes qui ont mené à sa reconnaissance en tant qu'apparition de la Vierge Marie. Et toutes les épreuves institutionnelles auxquelles cette apparition est soumise pour être reconnue comme telle.
Alors, dans votre nouveau livre, votre corpus d'études provient des archives de la Société pour la Recherche Psychique, Society for Psychological Research, une société savante fondée à Londres en 1882. Pouvez-vous déjà nous expliquer ce qu'est cette société savante ?
Oui, alors c'est la Society for Psycho Research, la Société pour la Recherche Psychique. Elle est fondée en 1882 dans le contexte d'une grande ferveur populaire pour le spiritisme, ce qu'on appelle en anglais spiritualism, et ce qu'on a traduit en français, en fait, dès cette époque-là, spiritisme. Une des grandes figures du spiritisme français, c'était Allan Kardec. Il a eu une importance bien au-delà des frontières de la France. Mais il prend part à ce grand mouvement qui part des États-Unis après les expériences très médiatiques des Sœurs Fox qui défraient la presse de l'époque. Donc on est en 1848 à ce moment-là. Mais à partir de ces expériences, du tollé médiatique qu'elle suscite, il y a un déferlement de ferveur pour les communications avec les morts, soit à travers des personnes jugées particulièrement sensibles et donc particulièrement capables de relayer, d'entendre et de relayer la parole des morts, soit à travers des dispositifs beaucoup plus démocratiques, de certaine manière, ouverts à tout le monde, ce qu'on a appelé ensuite les tables tournantes. Donc il y a une passion pour ces phénomènes-là, pour les communications avec les morts et pour, en fait, ce qu'on appellera au fur et à mesure de plus en plus le paranormal. La Société pour la Recherche Psychique est créée par un petit collège d'universitaires, scientifiques, hommes du monde, qui ont en commun d'être passés par l'Université de Cambridge, et donc d'avoir, pour la plupart d'entre eux, appartenu au Ghost Club, une sorte de société secrète d'études des fantômes qui rassemblait les étudiants de Cambridge. Et donc ces universitaires, ces chercheurs décident de créer la Société pour la Recherche Psychique en 1882 pour soumettre à l'examen scientifique rigoureux tous ces phénomènes dont la population européenne s'empare sur lequel les gens, la société civile en fait, veut avoir des réponses. La Société pour la Recherche Psychique dit peut-être qu'il y a dans le mouvement spiritualiste, dans les affirmations des médiums, la promesse de nouvelles découvertes, la promesse de la découverte d'un monde invisible qui reste à documenter, mais pour faire de ces découvertes des faits scientifiques, il faut les soumettre aux méthodes de la science expérimentale, ce qu'il reste à faire. Et on ne peut pas croire sur parole les médiums qui communiquent avec les morts, ou on ne peut pas se contenter de tables tournantes comme dispositif de description scientifique de ces phénomènes. Il faut rassembler tout ça, faire une base de données, bon, ils disent pas base de données à l'époque, mais faire un fond documentaire qui permettra d'établir, potentiellement, si ces phénomènes sont avérés, d'établir les lois qui gouvernent leurs manifestations. Les maisons hantées font partie des phénomènes qui intéressent la Société pour la Recherche Psychique. C'est pas les seuls, c'est même pas ceux qui les intéressent le plus, mais ça fait partie des phénomènes qui intéressent la Société pour la Recherche Psychique.
Qu'est-ce qui les intéresse le plus ?
Ce qui les intéresse le plus, dès cette époque-là, c'est la transférence de pensée. Ce que Frederick Myers, 2 ans après la création de la Société, je crois en 1884, si mes souvenirs sont bons, commencera à appeler télépathie. C'est lui qui a inventé le mot, et c'est un membre de la Société pour la Recherche Psychique. Ça fait partie des premières découvertes, ou en tout cas documentations à large échelle, que produit en fait la Société pour la Recherche Psychique, c'est sur le phénomène de la télépathie. Les progrès sont plus lents sur les questions de maisons hantées. Ils sont beaucoup plus fulgurants dans les phénomènes de transférence de pensée.
Votre livre se concentre sur les enquêtes menées juste après la Seconde Guerre mondiale par un tout jeune membre de la société, Donald James West. Vous écrivez que c'est un enquêteur qui ne croit pas aux fantômes et il chercherait plutôt des faits scientifiques recevables en allant inspecter ces maisons hantées, puisque ce sont des personnes qui vivent dans ces maisons, qui écrivent à la société savante pour qu'il y ait enquête dans leur maison.
Tout à fait, oui. Donald West, c'est un personnage curieux. C'est un jeune étudiant en médecine, comme vous l'avez dit. Au moment où il est engagé comme assistant, plutôt agent de recherche, chargé de recherche par la Société pour la Recherche Psychique en 1946, je crois qu'il est engagé. À ce moment-là, donc, il fait ses études de médecine. Il vient d'un milieu assez modeste à Liverpool, et grâce à cette société, il est aussi projeté dans une société bourgeoise, voire aristocratique. En tout cas, une société intellectuellement assez distinguée. Et il se prend de passion pour l'étude des phénomènes psychiques. En tant que chargé de recherche, Une de ses responsabilités principales, c'est d'enquêter dans les maisons hantées, en tout cas dans ces maisons dont les occupants sollicitent la Société pour la Recherche Psychique, en disant y a un problème dans notre maison, quoi. Mais en effet, lui, il est sceptique, il est très sceptique. Bon, la plupart des membres de la société se disent sceptiques, mais lui, il est plus que ça, quoi. Il est déjà convaincu, déjà tout jeune, en fait, avec relativement peu d'expérience dans la recherche psychique. Dès les premières années de son emploi à la Société pour la Recherche Psychique comme chargé de recherche, il se décourage de trouver quoi que ce soit d'intéressant dans la maison hantée. Pas parce que les fantômes n'existeraient pas, bon, c'est pas trop comme ça qu'il présente sa position, c'est plutôt que, en fait, on ne peut pas savoir. Les maisons hantées sont des lieux trop complexes. Les témoignages qu'on peut y recueillir sont trop embrouillés, sont trop peu vérifiables pour espérer pouvoir en faire le socle d'un travail scientifique. On ne peut pas faire une science des maisons hantées. Or, l'ambition de la science psychique, c'est précisément de faire œuvre de science, de faire œuvre scientifique, d'établir des faits scientifiques. Selon West, c'est désespéré de le faire dans les maisons hantées. On n'y arrivera pas. Il est découragé de ça. Et donc, il veut en convaincre ses collègues dans des termes assez véhéments. Puisque ce n'est pas l'opinion consensuelle, en fait, à la société. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, donc entre 1946 et 1949, quand il fait ses premières enquêtes, il y a encore beaucoup de membres qui croient à la vertu du témoignage spontané. En fait, les phénomènes spontanés sont jugés un matériau indispensable de la recherche psychique. Il y a ce qu'on peut établir en laboratoire, d'une part, et il y a ce dont les gens du commun rendent compte. Pour la plupart des membres de la société, vraiment, la pratique de la science psychique doit marcher sur ces deux jambes-là. Doit faire des expériences de laboratoire, mais ne doit jamais renoncer à recueillir des phénomènes spontanés. Pour West, clairement, son intérêt l'emmène vers le laboratoire. Le recueil de phénomènes spontanés, peut-être que pour des faits de transmission de pensée, par exemple, qui sont facilement corroborables, ça peut être acceptable. Pour les maisons hantées, c'est trop embrouillé. Il parle, pour décrire les enquêtes sur les maisons hantées, il parle du bourbier du témoignage humain. C'est quelque chose qui ne peut être démêlé facilement. Donc il faut déserter ce champ des maisons hantées et faire porter les efforts de la science psychique sur d'autres domaines.
Alors, votre enquête, vous l'avez menée, Grégory Delaplace, en tant qu'ethnologue, c'est bien cela dont il s'agit.
Oui.
C'est en tant qu'ethnologue, en tant que professionnel de cette discipline que vous menez cette enquête. Et vous écrivez très bien à la fin de votre introduction, et ça serait le premier aparté, en fait. Votre ambition dépasse le cadre de ce type d'études. Je lis le dernier paragraphe qui est assez fondamental, et on y reviendra après plutôt en conclusion. Mais vu que ce dernier paragraphe de votre introduction s'y trouve en introduction, je souhaiterais que nous commencions à en parler. Je vous lis longuement. Mais il est toutefois possible que ce livre, ou plutôt son auteur, se soit laissé entraîner un peu plus loin que cela. Il est même possible que je me sois mis en délicatesse à cet égard vis-à-vis des attendus de ma propre discipline, l'anthropologie sociale, et qu'on juge en me lisant que j'ai outrepassé les limites de la distance ethnographique. Il est en effet possible que ce livre, ou plutôt son auteur, se soit laissé aller à tenter lui-même de caractériser ce dont il était effectivement question dans ces cas de maisons hantées. Il est en fait possible, pour tout dire, que j'ai été conduit à m'inscrire dans la continuité du programme de recherche des sciences psychiques en m'efforçant de reformuler, à partir d'une anthropologie des apparitions, les termes du problème ontologique que posent les maisons hantées. Je ne peux le nier, autrement dit, que l'une des ambitions de ce livre est bien de parvenir non seulement à décrire, mais aussi à comprendre ce qu'il se passe dans une maison hantée, et donc de tenter, à mon tour, de qualifier les fantômes comme un certain type de choses. Pouvez-vous nous expliquer, Grégory Delaplace ?
Oui, c'est une hésitation qui a parcouru le livre et le travail sur les fantômes qu'il a occasionné, qu'il a réorienté par rapport aux matériaux mongols. Pour différentes raisons, en fait. La première, c'est ce que ça fait de travailler sur des archives pour un anthropologue. Quand on fait un travail d'anthropologue qui ne passe pas par l'ethnographie fondée sur l'observation participante, on est forcé d'adapter ses méthodes. Il n'était pas question pour moi d'aller interroger, faire un entretien avec Donald West, encore que j'aurais pu, hein, il est mort en 2019, et j'avais déjà commencé la rédaction du livre. Plusieurs anciens membres de la Société pour la Recherche Chic m'en avaient découragé, mais de toute façon, je ne pouvais pas aller enquêter dans les maisons qui, la plupart du temps, n'existaient plus, dont les habitants avaient depuis longtemps quitté les lieux. Donc, il faut travailler sur un matériau qui est déjà constitué. Ça conduit à être peut-être un petit peu plus téméraire qu'on le serait si on se mettait juste au service des discours, des pratiques qu'on observerait dans le cadre d'une observation participante, quand on vit chez les gens, quand on partage un quotidien avec eux. On est empli, en fait, de ce sentiment de responsabilité vis-à-vis de ce qui nous est livré. Et donc, on s'attache à restituer le monde dans lequel les personnes avec qui on vit vivent, et le monde qui a été le nôtre pendant le temps de l'ethnographie. C'est ce que j'ai fait avec les Mongols, chez les pasteurs nomades avec qui j'ai vécu. Il n'était pas question de dire quelque chose des fantômes en général, en fait. Il s'agissait de voir comment les morts intervenaient dans la vie quotidienne des pasteurs nomades avec qui dont j'avais partagé le quotidien. En me penchant sur ces archives, forcément, étant donné que ce sont des archives, on se sent une responsabilité moins directe vis-à-vis des personnes dont il est question. On assiste à un quotidien qui s'est déjà déroulé, on reparcourt des événements auxquels on n'a pas participé soi-même. Donc, on est tenté d'avoir une position un petit peu plus détachée vis-à-vis de ce qui s'y passe. Et il y a aussi, la deuxième chose, c'est que ces archives sont écrites, rassemblées, en fait, du point de vue de l'enquêteur. Les rapports sont écrits par Donald West, les documents sont rassemblés par Donald West, et ils ont été archivés, sélectionnés par Donald West. Donc, c'est le point de vue de Donald West qui ressort beaucoup. Alors, j'aurais pu me mettre juste au service de la parole de Donald West et voir comment il traitait les fantômes et ce qui l'intéressait là-dedans. Ça me semblait insuffisant à plusieurs égards. Le premier, c'est que les témoins eux-mêmes semblaient proposer quelque chose d'un petit peu différent par rapport aux expériences dont ils étaient les témoins. Alors que Donald West, lui, essayait de botter en touche la plupart du temps, soit en se dérobant aux demandes des témoins qui disaient « Bon, qu'est-ce qui se passe chez moi ?» Bon, Donald West, en gros, disait « Je sais pas ». Et il disait ensuite « Ça m'intéresse pas ». Donc, bon, c'était un petit peu court comme réponse. Et ça donnait envie d'essayer de traquer, en fait, dans la parole des témoins que Donald West avait lui-même recueilli, ce qui semblait leur arriver à eux. Et par le contraste entre ce qui leur était arrivé et qu'ils essayaient de raconter et ce que Donald West en faisait, on avait plus que juste une manière d'envisager les fantômes. On avait l'amorce d'une indication de ce pourquoi les fantômes n'étaient pas recevables d'un point de vue scientifique. Et donc, pas seulement la conception des fantômes qui accourt dans l'Angleterre de l'après-guerre, mais la raison pour laquelle la raison d'un désaccord sur ce que peuvent ou ne peuvent pas être les fantômes et les raisons d'une impossibilité à traduire les fantômes dans les méthodes, de les transposer, de les accueillir dans les méthodes des sciences expérimentales. Et donc, ça mettait sur la piste d'une caractérisation plus générale de ce qu'étaient les fantômes au-delà de ce que les témoins en perçoivent et au-delà de ce que Donald West croit en savoir. Une autre raison donc pour laquelle j'ai été conduit presque à sortir de la zone de confiance ethnographique, c'est que l'exemple, l'étude de cas mongole s'offrait en comparaison à ce que je voyais dans les archives. Et des continuités m'apparaissaient qui me conduisaient, m'incitaient à aller un petit peu plus loin que le constat de la localisation de certaines pratiques à un certain endroit. La façon dont les fantômes apparaissent en Angleterre après la guerre n'est pas exactement la même que la façon dont ils apparaissent aux pasteurs nomades mongols du début des années 2000, mais il y a des continuités étonnantes, notamment dans la façon dont ils sont perçus et dans la manière dont ils paraissent se démarquer d'une expérience ordinaire.
Donc ça vous permet, par ces deux expériences, d'identifier certaines caractéristiques de ces expériences d'apparition. C'est ça que vous allez essayer de caractériser, en fait. Alors il y a différents éléments, leur aspect inquiétant qui provoque de l'inquiétude, vous revenez à l'inquiétante étrangeté théorisée par Freud, il pourrait y avoir aussi leur imperception, et puis le fait aussi qu'elles sont, ce serait la troisième caractéristique, le fait qu'elles sont aussi perceptuellement incomplètes. Pouvez-vous nous expliquer ?
Oui, c'est ce qui ressort assez bien des archives, en fait. Et c'est la première raison pour laquelle j'ai mis mon nez dedans. À l'issue de mon travail en Mongolie, j'avais déjà j'avais déjà proposé de caractériser ce qu'il y avait de commun aux expériences qu'on me racontait à partir de ces trois caractéristiques. Donc la complétude perceptive, le problème dans la gentilité que ça pose et le caractère incommensurable de la perception qui produisent, la sensation qui produisent. Il y avait une triple inquiétude là-dedans qui me semblait vraiment signaler ce qu'était une apparition en Mongolie. Et en lisant la littérature ethnographique, en lisant le travail de Pierre Deléage sur les Charanawa d'Amazonie, ou en lisant même des travaux sur d'autres types d'apparitions, comme donc les apparitions mariales chez Elisabeth Cabri,
Et même aussi les études d'apparition d'OVNI.
Oui, tout à fait, oui. Par Lagrange, notamment, voilà. Et ensuite par Esquerret.
Voilà.
J'avais le sentiment que ce que j'avais observé chez les Mongols pouvait s'étendre, en fait, s'appliquer à d'autres apparitions ailleurs, quoi. Et je voulais savoir dans quelle mesure. Et en commençant par les apparitions de morts, de fantômes, les hantises, si les fantômes apparaissaient de la même manière ou non en Angleterre et en Mongolie. Et je ne savais pas encore qu'il y avait le matériau disponible en Angleterre pour le faire. Je cherchais justement un fond documentaire qui me permettrait d'accéder à un grand nombre d'expériences de rencontres avec un fantôme, d'apparition de fantômes. Je ne savais pas où le trouver. Et c'est là où j'ai entendu parler de cette société, et avec l'espoir qu'elle contiendrait ce qui me manquait vraiment, les récits d'expériences primaires, en fait, c'est-à-dire ceux qui sont racontés par le témoin même. Ce qui m'intéressait surtout pas, c'était les on-dit ou le folklore, en disant tout ce qui avait intéressé les études folkloriques, qui disaient on raconte qu'à tel endroit il s'est passé ça. C'est pas ça, c'est pas la matière qui m'intéressait. La matière qui m'intéressait, c'était vraiment l'apparition de l'invisible, l'événement d'apparition. Et j'espérais que dans ces archives de la Société pour la recherche psychique, comme ils avaient recueilli ce genre de matériaux, qu'il y ait ce fond documentaire d'expériences primaires, de récits primaires d'expériences de rencontres avec l'invisible. Et ce que j'ai trouvé a dépassé largement les espérances, parce que il y avait non seulement les récits d'expériences, des témoins, souvent sous forme de lettres. Les témoins écrivent à la Société pour la recherche psychique en disant « Bon ben voilà ce qui m'est arrivé, venez s'il vous plaît. » En général, le représentant de la société répond par une lettre « Est-ce que vous pouvez me dire plus précisément ce qui s'est passé ?» Et là, on a vraiment un récit d'expérience développé. Donc il y a non seulement ça, mais ensuite le récit de l'enquête, qui est menée par le représentant de la société et parfois par d'autres institutions. Donc, il y avait une base comparative fantastique. Mais la première chose que je pouvais mettre à l'épreuve, c'était la caractérisation de la sensation et de son étrangeté. Et les raisons pour lesquelles cette sensation paraissait étrange et les raisons pour lesquelles elle appelait une enquête. Et c'est effectivement les trois mêmes caractéristiques que j'ai retrouvées sans avoir à forcer le trait dans les expériences que je recueillais dans la société. Au contraire, je voyais ces trois critères apparaître aussi et former en fait une unité dans toutes ces sensations. Les fantômes n'étaient pas les mêmes. Il y a des fantômes qui en Mongolie dont on n'a pas idée en Angleterre. Des histoires, par exemple, de vieilles femmes qui font frire des beignets sur le bord de la route. Bon, personne n'a jamais raconté ça en Angleterre. D'ailleurs, les fantômes sont très peu des choses d'extérieur en Angleterre, en Mongolie beaucoup plus. Et les fantômes en intérieur sont plus délicats ou problématiques ou rares, puisque les intérieurs sont souvent des yourtes en Mongolie, dans l'endroit où j'ai travaillé. Donc, c'est pas le même contexte d'apparition. Mais par contre, ce qui est commun, c'est ce que j'ai appelé à certaines occasions la texture de la sensation, c'est-à-dire la qualité particulière de la sensation qui la rend inquiétante. Et donc ça, c'est la même chose, cette incomplétude perceptive, le fait qu'on voit des choses qu'on n'entend pas, qu'on entend des choses qu'on ne voit pas, tout ça. Le problème dans l'agentivité, donc c'est des résultats d'action sans agent, ou des agents qui font des actions complètement invraisemblables. Et enfin, cette même chose qui est en fait la chose la plus caractéristique, qui est cette incommensurabilité sensorielle. C'est-à-dire, c'est des choses qui vous apparaissent comme quelque chose d'autre qui y ressemble, mais que ça n'est décidément pas. Et donc là, il y a divers dispositifs linguistiques qui permettent d'exprimer ce décalage dans la réalité, cette brèche qui s'ouvre et qui appelle l'enquête. Et c'est ça que j'ai vu vraiment dans ces archives, que je n'avais pas aussi bien vu en Mongolie, c'est que ces trois caractéristiques sont des caractéristiques de défaut perceptif, en fait. C'est des manques, un défaut de perception, un défaut d'agentivité, un défaut de commensurabilité. Et ces trois défauts créent un déséquilibre qui appelle l'enquête, qui absorbe, qui aspire vraiment le témoin dans une enquête qui fait malgré lui, dès qu'il l'est confronté à cette expérience.
Alors, on va en arriver justement à cette notion d'enquête. Juste avant, pour résumer un peu ce que vous venez de nous expliquer, Grégory Delaplace, on comprend que nous avons affaire à un problème de qualification avec ces apparitions que vous résumez ainsi. Des formes humaines comparables à nul autre s'adressent à eux par des signes intelligents mais inintelligibles qu'ils ne peuvent percevoir que de façon parcellaire, des sensations, des cris, des bruits singuliers qui leur parviennent de façon opaque et désaccordée. Et comme vous venez de commencer à nous l'expliquer, c'est cela qui amène, qui appelle, le terme peut-être appelé et peut-être mieux choisi, ça appelle à enquête. Si bien que cette notion d'enquête va être un élément important. D'ailleurs, votre sous-titre, c'est « Enquête sur les maisons hantées ». Je vous interroge maintenant sur ce terme d'enquête qui ne vient pas de n'importe où.
Non, il est très chargé même, à tel point qu'on pourrait hésiter à l'utiliser, mais tant il a des racines complexes dans la pensée philosophique européenne, en fait. C'était un terme qui était inévitable, parce que ce sont les enquêtes qui structurent ces archives. D'une part, parce qu'elles sont constituées de par l'effort d'enquête de la société pour la recherche psychique, et de par les enquêtes que Donald West, parmi d'autres membres, à d'autres époques, mais que Donald West, à cette époque-là, a mené dans les maisons hantées. Mais d'autre part, parce que c'est pas du tout le seul à mener des enquêtes dans les maisons hantées et autour de ces phénomènes. Les témoins eux-mêmes, dès l'expérience, l'événement de surgissement de ces expériences étranges, les témoins, dès cet instant-là, sont appelés à une enquête, quoi.
Du fait que le phénomène est incomplet,
du fait de l'incomplétude,
voilà. Que l'expérience seule, je reprends vos termes, l'expérience seule ne suffit jamais à résoudre le problème posé.
C'est ça, ouais. C'est-à-dire que la perception ne suffit pas à la qualification. Ça, c'est souvent, c'est une expérience qu'on peut faire à différentes occasions, mais il y a quelque chose de puissamment insolvable, irrésolu dans ce décalage-là, dans les apparitions. C'est-à-dire que c'est une expérience qui ne porte pas elle-même les clés de son intelligibilité. C'est une expérience qui fait défaut et donc qui exige un détour par une personne, un dispositif, quelque chose qui permettra de combler la brèche qui s'est ouverte dans le réel, ce défaut de qualification. La qualification, elle fait défaut et elle doit être recherchée à travers ce processus d'enquête qui exigera une médiation, un détour par une personne, un instrument, des procédures qui permettront de retisser le lien entre perception et qualification. Ce qui est intéressant avec ce qu'on a pris l'habitude d'appeler les choses invisibles en anthropologie, c'est que le lien n'est jamais tissé de façon définitive dans ces affaires-là. Il y a plein d'expériences où des perceptions ne portent pas immédiatement les clés de leur qualification, mais à partir du moment où on les qualifie, la chose est entendue. Quand on voit un nouvel animal qu'on n'avait pas eu l'habitude de voir avant, on apprend ce que c'est et ensuite on saura ce que c'est. Pour les fantômes, notamment parmi les autres choses invisibles, ce décalage, cet écart entre perception et qualification n'est jamais résolu. Et il doit toujours être reparcouru. C'est une autre question, mais c'est ce qui rend en fait cette expérience particulièrement déstabilisante pour les témoins. La chose qui faut quand même mentionner, c'est que les témoins de cette époque-là, en Angleterre, dans l'Angleterre de l'après-guerre, ne sont pas innocents par rapport à la question des fantômes, au sens où c'est un problème dont ils ont conscience, qu'ils savent pouvoir se produire dans leur environnement. Donc, quand ils se retrouvent dans cette situation d'absence de qualification, quand ils se retrouvent dans cette situation de manquement perceptif, en pointillé, ils se disent si je suis dans cette situation, a priori, si j'ai pas de solution, ça veut dire que la solution est peut-être un fantôme. Et donc, il y a une qualification qui est présente en pointillé. Et donc, qui fait qu'ils vont appeler la Société pour la Recherche Psychique plutôt qu'une entreprise de dératisation ou la police. Il y en a qui commencent par appeler la police, la plupart, et qui font valoir ça auprès de la Société pour la Recherche Psychique. Vous voyez que je ne suis pas crédule, vous voyez que je ne suis pas quelqu'un qui saute sur l'explication des fantômes, puisque j'ai commencé à appeler la police. Et la police elle-même m'a dit qu'elle n'avait pas de solution. Donc, vu qu'il y a toujours un défaut de qualification, je continue mon enquête en faisant appel à vous, Société pour la Recherche Psychique. C'est ça qui est le sous-texte des intentions d'enquête des témoins dans ces archives.
Alors, j'aimerais qu'on caractérise encore davantage le terme « enquête » parce qu'il provient notamment, et vous l'expliquez, du philosophe pragmatiste John Dewey, en tout cas qu'il l'a utilisé pour la philosophie, et cette philosophie pragmatiste américaine qu'il a notamment lui initié, John Dewey, est féconde, elle est toujours actuellement utilisée. On pense aux enquêtes sur les modes d'existence de Bruno Latour, par exemple. Bref, c'est actuellement dans les sciences humaines quelque chose qui est utilisé de faire des enquêtes. Et vous rappelez donc l'importance de John Dewey, sauf que vous émettez à son encontre ce constat problématique, cette résolution, pourtant, et c'est précisément à cet endroit que le bât blesse dans l'application du modèle de Dewey, semble ne jamais pouvoir permettre d'intégrer les fantômes dans un ordre unifié et englobant. À la fois, il vous est utile méthodologiquement, mais en même temps, vous voyez bien qu'il y a un refus de ce phénomène d'apparition.
Et en effet, mais ce serait de mauvaise foi de ma part de lui reprocher de ne pas avoir pris en compte les enquêtes sur les apparitions de fantômes, parce que c'était vraiment pas son objet pour le coup. Contrairement à son collègue pragmatisme William James, qui lui s'est beaucoup plus intéressé à ces phénomènes, John Dewey, on est assez éloigné. Et en faisant une théorie générale de l'enquête, son propos est de parler de toutes les autres enquêtes et de dire en fait que l'intelligence humaine est une intelligence enquêtrice en fait, et que c'est tout savoir provient d'une enquête, et que toutes ces enquêtes répondent un petit peu aux mêmes règles, ou en tout cas aux mêmes modèles, aux mêmes étapes, et c'est ces étapes que il développe de façon très convaincante dans son livre sur la théorie générale de l'enquête. Cette théorie générale est en fait un modèle proposé des étapes communes à tous les processus d'enquête, elles-mêmes nécessaires à toute entreprise de savoir, en fait. Ce qui est intéressant, c'est justement que ça permet, comme c'est très convaincant, comme c'est très clair, en fait, hein, malgré la complexité du livre, je veux dire, son propos, son intention et la manière dont il s'y prend est très claire. Donc, ça nous permet, face à ces enquêtes d'un type un peu particulier, de préciser en quoi ces enquêtes sont particulières, en quoi ces enquêtes sont exceptionnelles, singulières. Voilà. En quoi les enquêtes sur les fantômes sont singulières. Et est-ce qu'elles sont singulières tout en suivant les étapes d'une n'importe quelle autre enquête, ou elles sont singulières pour le cœur même de ce qu'est une enquête. Et en essayant d'appliquer le modèle des étapes de l'enquête de John Dewey à nos enquêtes de la Société pour la Recherche Psychique, on se rend compte que c'est la deuxième solution, que c'est la deuxième option, qu'en fait, elle ne répond pas, ou pas tout à fait, ou pas jusqu'au bout, au modèle proposé par John Dewey. Pas que celui-ci a tort, mais que ces enquêtes, justement, sont des mises en échec d'une partie des enquêtes habituelles. Elle déroge à ce qu'est habituellement une enquête. À quel moment? Justement, au moment où l'enquête est susceptible d'aboutir à l'établissement d'un savoir institué généralisable. Ça permet de mettre le doigt sur le fait que le problème spécifique que posent les enquêtes sur les fantômes, c'est ce problème de généralisation. Puisque c'est celui que Dewey met à l'aboutissement de son modèle général du savoir.
J'aimerais qu'on y vienne justement, parce que c'est un aspect vraiment très important de cette anthropologie de l'apparition que vous faites, Grégory de Laplace. Vous écrivez que la science a pu tenter de faire entrer les phénomènes des fantômes et des maisons hantées dans ses recherches, mais a abandonné ses tentatives de les faire entrer dans le giron d'une réalité scientifiquement instituée. Et tout ce que vous venez de nous dire, effectivement, on le comprend très bien. Pourquoi ? Parce que, je vous cite encore, si les fantômes ne manquent pas d'habitude, donc les habitudes avec lesquelles ils hantent les lieux ne se laissent pas unifier en une connaissance stable. Elles projettent les témoins dans un monde dont les transformations ne sont pas généralisables. Ça, j'aimerais que vous nous en parliez, parce que c'est fondamental pour comprendre comment il est impossible, par la science, de instituer la vérité de ce type de phénomène.
Ouais. C'est en effet un point assez délicat, parce que on est à chaque fois menacé par on est de deux côtés menacé par le sens commun en énonçant cette idée. Première menace du sens commun, c'est de se contenter de dire que les fantômes ne sont pas des expériences reproductibles. Et c'est pour ça que la science n'en veut pas. On ne peut pas mettre les fantômes au laboratoire. parce qu'on ne peut pas recréer les conditions de leur reproductibilité. Bon, c'est quelque chose qu'on savait déjà, et que les représentants de la Société pour la recherche psychique ne cessent pas de répéter. Deuxième chose de sens commun, contradictoire en fait, c'est de dire que la hantise, c'est l'incarnation de l'habitude, et que les fantômes qui hantent les lieux sont des êtres d'une habitude obsessionnelle, dangereuse, une habitude qui met en danger toutes les habitudes, toutes les autres habitudes, celles des vivants, quoi, et qui préempte les habitudes des vivants. Et donc, comment s'en sortir entre ces deux positions de sens commun ? C'est là où la théorie de l'enquête de Dewey me semble offrir une voie plus solide entre ces deux positions de sens commun, qui permet d'en rendre compte, et de rendre compte de leurs contradictions. C'est-à-dire, c'est pas que les fantômes n'ont pas d'habitude, et n'offrent des comportements jamais reproductibles, ou jamais reproduits, puisque, justement, ils font l'objet d'une enquête. Et si c'était des phénomènes qui étaient juste furtifs, qu'on subissait une seule fois, et après on n'en entendait plus jamais parler, bon, ils ne donneraient pas prise à l'enquête. Pour donner prise à l'enquête, il faut qu'il fasse partie, qu'il offre la promesse de pouvoir être connu, en fait. Et donc, de pouvoir être reconnu dans les habitudes par lesquelles ils apparaissent au vivant. Toujours au même endroit. Un son qui ne cesse de venir de ce lieu où il ne devrait pas sortir de son. Cette odeur qu'on n'arrête pas de sentir. Il y a toujours un truc de permanence. Le fantôme, par définition, c'est quelque chose qui s'accroche à un endroit. Donc, il y a des habitudes. Mais ces habitudes sont des habitudes ces habitudes, j'ai envie de dire, sont des habitudes incomplètes, ou en tout cas des habitudes qui dérogent, encore une fois, à l'établissement de lois. Ce sont des habitudes qui ne sont pas des lois. Et c'est là où à la fois, les témoins deviennent fous, c'est un peu trop fort, mais c'est là où les témoins s'épuisent, en fait. Et c'est là où la science achoppe. Et c'est là où Donald West se décourage. Puisqu'on ne peut se fonder que sur des témoignages de régularité dont on ne peut jamais établir les conditions de généralisation, Donald West dit, si on ne peut pas faire ça, abandonnons le fantôme. Et pourtant, ce n'est pas parce qu'il décide, lui, de l'abandonner que le fantôme va cesser en tant que phénomène. Il va continuer de s'établir avec une habitude non généralisable. Voilà, c'est ça, à mon avis, qui est une des choses les plus difficiles à caractériser dans ces fantômes, c'est ces habitudes non généralisables. Ces habitudes qui semblent s'offrir à l'observation des témoins qui partagent vraiment un lieu vécu avec des fantômes et avec lesquels ils doivent accommoder les habitudes de vie, quoi. Les gens qui vivent avec des fantômes, dont ces archives portent la trace, quoi, doivent adapter leurs habitudes aux habitudes du fantôme.
C'est là-dessus, nous avons le dernier point que nous allons aborder ensemble. Et donc, pour résumer votre propos, Grégory Delaplace, on comprend que ces choses particulières que sont les apparitions semblent ne jamais se laisser réduire aux principes généraux, c'est vous qui écrivez cela, sur le mode émanant des institutions qui entreprennent d'enquêter dessus. Institutions, c'est les sociétés savantes, les sociétés scientifiques, bref, ouais. La science en tant qu'institution n'est pas faite pour véritablement envisager, comprendre ce type de phénomène. Pourquoi ? Eh bien, ça, c'est la suite de votre livre qui nous l'apprend, puisque c'est un mystère qu'il faut essayer de mieux comprendre là aussi. Et donc, on en arrive à cette question qui sous-tend tout votre livre. Qu'est-ce qu'une apparition, puisque l'institution scientifique, finalement, n'est pas faite pour mener à bien une enquête jusqu'à son terme. Ça ne nous satisfait pas, en fait, et ça ne satisfait pas non plus les témoins de ces apparitions, en fait. Ils ne sont pas satisfaits de la réponse des sociétés savantes et donc de la science. Donc, c'est l'aboutissement logique de votre enquête sur des enquêtes, c'est ainsi aussi que vous la dénommez, une enquête sur les enquêtes. Et donc, vous en arrivez à écrire ces hantises, donc ces phénomènes d'apparition, mettent en jeu de la part des témoins une intelligence particulière des lieux. C'est cela que vous allez essayer de caractériser, de nous faire comprendre qu'ils sont dotés, ces personnes à qui apparaissent ces phénomènes, ils sont dotés d'une intelligence particulière des lieux, ce qui voudrait dire qu'ils sont corrélés au lieu. C'est en tant qu'habitant le lieu que ces phénomènes leur apparaissent.
Oui, tout à fait. Alors, le lien, enfin, comment dire, l'accrochage que vous évoquez, en fait, c'est celui entre dit oui sur l'enquête et Vinciane Després sur l'intelligence.
On y est.
Voilà. Donc, l'expérience d'apparition des fantômes est une expérience qui, comme on l'a évoqué, enfin la conséquence de ce qu'on a évoqué, c'est que c'est une expérience particulière. C'est-à-dire c'est toujours quelque chose de localisé qui peine à se généraliser ou même à s'étendre en dehors des limites du groupe qui en a été témoin. Il y a un petit groupe de témoins dont les expériences se sont ajustées l'une à l'autre. Et en vertu de cet ajustement, ils en viennent à percevoir les lieux d'une manière complètement différente des autres, de ceux qui n'ont pas été inclus dans cette opération, ces opérations, ça se déroule souvent sur plusieurs jours, dans ces opérations d'ajustement. Ces opérations d'ajustement, c'est quoi ? C'est j'ai vu telle forme à tel moment, et au même moment, cet ami m'a dit qu'il avait entendu quelque chose. Et d'ailleurs, 3 ans avant, une voisine m'avait parlé d'un truc que je n'avais pas compris à l'époque, mais qui maintenant me fait penser qu'elle aussi avait eu une expérience curieuse. Et puis, il y a l'idée que cette maison, elle a été construite sur un ancien presbytère. Et donc, tous ces ajustements entre des expériences qui auraient pu sinon rester dissociées, font que les témoins se comprennent et voient dans les lieux quelque chose qui reste inaccessible aux autres, à ceux qui n'ont pas fait l'expérience de l'apparition comme elle et comme eux. Parce que, encore une fois, cette urgence d'ajuster, ce n'est pas juste une curiosité intellectuelle, c'est une nécessité qui vient de la brèche dans le réel qui s'est ouverte par l'expérience d'apparition. Il faut retenir cette urgence-là, et c'est ce que fait pas Donald West, justement. Il faut retenir cette urgence-là pour comprendre d'où ça vient et pourquoi c'est absolument nécessaire d'essayer d'opérer cet ajustement qui va permettre la qualification. Et donc cet ajustement, c'est avec l'impossibilité de généraliser les habitudes du fantôme, le fait qu'il soit jamais reproductible, que quand Donald West va dans les maisons, bah, il voit jamais ce que les gens voient. Cette intelligence, c'est la deuxième chose qui lui paraît suspect. Donald West, en tant que représentant de la Société pour la Recherche Psychique, il a besoin de phénomènes qui soient non seulement reproductibles, mais qui soient isolables. Il a besoin que les témoins aient vu ce qu'ils ont vu, indépendamment de quoi que ce soit qu'ils auraient entendu et qui aurait pu leur donner une indication qu'ils étaient censés voir quelque chose. Parce que sinon, qu'est-ce que c'est ? C'est, pour lui, de la suggestion. La suggestion, c'est un concept un petit peu passe-partout de la psychologie de l'époque. C'est quelque chose dont, pour tout un tas de raisons historiques, les psychologues font grand cas au tournant du siècle, jusqu'aux années 50 au moins, jusqu'à aujourd'hui, mais à cette époque-là, j'ai l'impression que ça prenait une place encore plus grande dans l'univers des psychologues. C'est la suggestion, c'est ce processus par lequel une personne en influence une autre. Et donc, la grande affaire de Donald West, c'est d'éviter que le phénomène rapporté puisse être juste l'effet de la suggestion. Comment s'en assurer ? Ben, c'est impossible. Et c'est pour ça que c'est précisément pour ça qu'il l'estime que les expériences et les témoignages recueillis dans les maisons hantées ne valent rien. Parce qu'ils sont toujours suspects de, d'être le résultat d'un processus tout bête de suggestion. En fait, les gens non seulement se font des idées, mais en plus ils influencent les autres, après ça te fait des idées, et donc tout le monde finit par se faire des idées, et donc on ne peut plus rien savoir. Ça, c'est la position de Donald West. Les témoins, ils disent autre chose. Justement, ils ne parlent pas d'une suggestion généralisée. Ils parlent d'événements très précis et de corrélations ajustées entre les perceptions de chacun. Et donc, ce que j'ai cru voir dans les archives, pour ma part, plutôt que le bourbier du témoignage humain, c'est une mécanique très précise d'ajustement perceptif. Et c'est ça que j'ai proposé d'appeler intelligence. Pourquoi ? Parce que ça restitue non seulement ce que les témoins semblent, ce dont les témoins semblent parler, c'est-à-dire cet ajustement perceptuel dont je vous ai parlé, mais ça restitue aussi l'accusation de Donald West. Les témoins n'arrêtent pas de dire c'est pas que moi qui ai vu, sinon je suis tout à fait prêt à penser que je me serais fait des idées. C'est pas que moi qui ai vu, ce que j'ai vu peut être corrélé avec d'autres choses que d'autres personnes ont perçues. Hein. Donc les témoins n'arrêtent pas de dire je suis ma perception s'accorde avec celle des autres. Les témoins n'arrêtent pas de dire ma perception s'accorde avec celle des autres. Donald West n'arrête pas de dire vous vous entendez les uns les autres pour décider de ce que vous allez percevoir. Donc, pour Donald West, il y a une intelligence coupable qui est entre les témoins. Pour les témoins, alors que les témoins donnent l'impression d'une intelligence perceptive, d'un ajustement dans la manière dont ils habitent et vivent dans les lieux, quoi. Donc, c'est ça qui m'a semblé se mettre en place. C'est un phénomène d'intelligence entre plusieurs témoins dont la perception s'accorde, s'ajuste, et une intelligence qui semble ne pouvoir qu'être particulière, c'est-à-dire l'intelligence qui ne peut être étendue aux voisins, et encore moins à des gens plus loin qui sont des représentants de sociétés savantes. Cette intelligence reste particulière, elle reste limitée, confinée, aux limites du groupe de témoins qui en a fait l'expérience.
Si bien vous en arrivez à cette conclusion, les habitants des maisons hantées doivent donc s'habituer, en plus de la présence du fantôme, à ne plus tout à fait habiter le même monde que la plupart de leurs contemporains, ou en tout cas de ne plus habiter de la même manière.
Oui, c'est ça. Il me semble que c'est ce qui ressort des archives. C'est une sensation plus ou moins douloureuse, en fait, et plus ou moins consciente, d'isolement et de décalage créée par cette intensité de l'expérience perceptive au sein du petit groupe de témoins et cette difficulté à comprendre vraiment ce dont il est question quand on n'en est pas partie prenante. Donc une difficulté à communiquer l'expérience perceptive vers l'extérieur. Et donc une discontinuité dans la façon dont le monde est habité. Parce que justement, les habitudes perceptives qui fondent communauté d'habitation, le fait que ben, on est tous en train de percevoir le même monde, d'avoir les mêmes attentes par rapport aux objets qui nous entourent d'avoir les mêmes grilles d'analyse de perception des situations auxquelles on est confronté. Justement, cette expérience crée une rupture dans cette continuité-là et fait qu'un petit groupe de personnes devient consciente de certaines choses dans l'environnement dont les autres n'ont pas idée. Voilà, donc une intelligence particulière et particularisante. À partir de ce moment-là, les témoins garderont la conscience du décalage qui les sépare du reste de leurs contemporains, quoi.
Merci beaucoup, Grégory Delaplace.
Merci.